Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes en quête de sagesse, ou tout simplement inspirés, partagent avec nous leur parcours de vie et nous donnent des pistes pour grandir en humanité. Je suis partie à la rencontre de ces chercheurs d'hier et d'aujourd'hui. Vous écoutez Envie de Sagesse.
Patricia Montaud, bonjour.
Et bonjour.
Vous venez de publier aux éditions d'Hervy une mise en pratique des dialogues avec l'ange. Quelle est la genèse un petit peu de ce projet ? Est-ce que les lecteurs du dialogue avaient du mal à rencontrer leur ange ?
Oui, il faut remettre le contexte. Donc, les dialogues avec l'ange, c'est un livre qui retrace l'expérience de quatre amis en Hongrie pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc trois juifs qui termineront en camp de concentration, et où la sincérité de leurs questions au sujet de l'horreur de ce qui se passait autour d'eux a fait monter en eux une vérité qu'ils appelleront plus tard l'ange, le maître intérieur, le guide. Et que pendant 18 mois, ils vont donc questionner pour aboutir à une sorte de mode d'emploi de l'homme. Quoi. Quel est l'homme accompli ? Quelle est la route de l'homme accompli ? Donc ça, c'était en 1943. Dans les années 80, de 80 à 90, nous rencontrons Gita et les questions que nous lui posons nous fait nous-mêmes accomplir un bout de la route de notre propre évolution, nous fait grandir. Voilà, et ensuite, quand au moment de mourir, elle nous dit je vous laisse un héritage avec ce livre. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire ? Le dilapider ? Ou le faire fructifier en apportant votre propre part à cet héritage. Alors peut-être que 15 ans après la mort de Gita, un peu plus même, une vingtaine d'années après la mort de Gita, le livre que j'écris, c'est mon héritage. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait moi de ce que j'ai reçu des dialogues avec l'ange et de l'aide de Gita Malas.
Alors justement, qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous avez capitalisé ?
Alors,
vous l'avez fait fructifier ?
Je crois que j'ai essayé de trouver moi des chemins de traverse, mon propre cheminement, mes propres formes de dialogue pour aider ceux qui étaient en peine. Je crois que je suis quelqu'un de très très simple et que tout cet enseignement, au début je pensais que j'étais un peu simpliste quoi, et que finalement j'ai essayé de rendre accessible dans une vie ordinaire ce message des dialogues avec l'ange.
Alors, ôtez-nous d'un doute, tout le monde peut rencontrer son ange ?
Non. Seulement ceux qui le désirent vraiment, seulement ceux qui y croient. C'était la réponse que Gita faisait à chaque question sur ce sujet. C'est-à-dire, dans le livre justement des dialogues, leur ange leur dit « Mais si tu crois que je peux parler, je parle. Mais si tu penses que je ne peux pas parler, tu me rends muet. » Et là, on est devant quel est le niveau de notre foi par rapport à l'existence de cette vie intérieure qui nous habite tous.
Ça veut dire que je peux toujours poser des questions à mon ange, mais il ne me répondra pas forcément.
Ah, mais si on n'y croit pas vraiment.
Mais si j'y crois, allez, on va dire que j'y crois.
Alors, obligatoirement, il répond. Il n'attend que ça. Il n'attend que la demande de son humain pour lui venir en aide. Il ne nous précède pas dans cette aide. Il ne nous viole pas contre notre gré. Il va falloir qu'on se donne pour qu'il vienne.
Alors, il y a des manières de questionner notre ange.
Oui, alors, le temps que nous avons passé avec Gita, c'était un temps avec mon époux de comprendre la cartographie, la route pour passer de l'humain intelligent avec tous ses commentaires à un humain inspiré, capable d'entendre dans le silence, dans son silence, une réponse d'une autre nature qui ne provienne pas de sa propre histoire. Et donc, en la questionnant, on a découvert les quatre étapes du dialogue avec notre ange. Et ça commence toujours par une question sincère. Même si elle paraît bête, si elle est totalement sincère, elle attire une réponse. Faire silence. C'est même pas faire silence, c'est se recueillir à l'intérieur de soi pour ouvrir nos oreilles intérieures. Mmh. Et puis là, il se passe toujours quelque chose si on questionne vraiment.
Alors ça se manifeste comment, ce quelque chose ? C'est un signe ?
Alors,
une synchronicité ?
Toutes les manières sont possibles. L'ange n'existe pas dans l'espace et dans le temps, donc il nous répond soit dehors, soit dedans. Il nous répond dedans par tout à coup une image qui nous vient. Au début, on ne sait même pas que c'est lui, alors on ne prend pas le fil pour le re-questionner. Mais tout ce qui nous traverse comme des sentiments, des intuitions subites, parfois c'est une partie de notre corps qui vient à notre attention, mais parfois dehors, par des synchronicités, comme vous dites, ou par tout à coup un bruit qui nous attire et qui répond à notre question. Mais l'ange ne répond jamais en une seule fois, nous n'avons jamais de réponse en une seule réponse. Il va falloir qu'on le re-questionne et que nous apprenions à traduire ce sentiment fugace en mots humains. Et tout dialogue se termine par un acte. Question, réponse, silence, réponse et acte. C'est-à-dire que j'avais un problème de vie, quel qu'il soit. J'ai questionné et mon ange m'a mis en lumière la difficulté intérieure, le problème, l'imperfection de Patricia dans ce problème de vie. Il va bien falloir que je transforme mon problème dans la matière.
Eh oui, parce que j'ai beau avoir la réponse, Patricia, mais à partir de ce moment, qu'est-ce que j'en fais de cette réponse ?
Tant qu'elle reste au niveau de la réponse, c'est que la moitié du dialogue. C'est-à-dire qu'on a eu l'intuition de ce qu'on devait faire, et puis on a hésité à le faire, on s'est dit non quand même, parce que l'ange nous demande toujours un dépassement de nous-mêmes. Il n'est là que pour nous conduire de notre nature ordinaire à notre nature surordinaire.
Oui, une sorte de transcendance. En quelque
de dépassement sorte. De toute notre histoire.
Et alors, ce livre, revenons-en quand même à ce livre, une mise en pratique. C'était difficile pour certaines de mettre en pratique ce dialogue.
Je crois qu'il en va du dialogue avec l'ange comme, qui est un amour céleste, comme de nos amours terrestres. Quoi. Quand on a 10 ans, ben, on lorgne sur les filles d'à côté, mais de très très loin. Quoi. On fait « ouh ». Et avec l'âge, allez, 12 ans, 13 ans, on commence, aujourd'hui ça va peut-être plus vite qu'à mon époque, mais on se touche et on est totalement excité simplement d'avoir frôlé la main de la dulcinée qu'on a dans le cœur. Et avec l'ange c'est pareil, alors on a tout à coup un cygne, une plume blanche qui tombe devant nos pieds et on s'exalte comme en se disant « voilà, c'est lui qui m'a parlé », mais de la même manière qu'on s'exalte d'avoir frôlé la main de celui qu'on convoite. Et puis en grandissant, quelque chose mûrit et on commence à toucher l'autre, mais on est maladroit, on ne sait pas où le toucher, on ne sait pas comment faire pour embrasser. C'est une intimité qui se dévoile petit à petit, et avec l'ange, on est devant cette même intimité, on ne sait pas qu'on peut aller se livrer à ce point. Et alors faire l'amour, c'est encore autre chose. Autant il va falloir qu'on accepte ce corps, qu'on aime plus ou moins, le dévoiler devant l'autre. Et en fonction du courage qu'on aura eu, on aura une relation sexuelle réjouissante ou pas. Et avec notre ange, la manière dont on osera se mettre à nu devant les laideurs qu'on contient intérieurement. Et on aura en échange de jouissance à réjouissance, quoi, avec lui.
Alors, votre livre, Patricia, c'est un petit peu des réponses à des questions que, je suppose, un certain nombre de personnes assistant à des séminaires se sont posées.
Voilà, dans toutes les conférences que j'ai pu avoir, dans tous les séminaires où des gens essayent de mettre en pratique. Et c'est un art de passer de croyant à l'ange, à pratiquant les réponses de notre ange, qui vont donc changer notre vie.
J'aime bien ce que vous dites, croyant en pratiquant. C'est-à-dire que là, on met cette croyance en acte.
En acte, c'est-à-dire, est-ce que tu vas être la même avec ton mari ? Tu as des problèmes, chacun a sa misère. On a tous certains se sont sentis abandonnés, certains souffrent de trahison, de se faire avoir, d'être délaissés. Et on va reproduire ça avec nos conjoints, avec tous les êtres qu'on va rencontrer. Et la première partie du dialogue avec l'ange, qui est la première partie incontournable, c'est est-ce que tu vas te rencontrer dans ta part d'ombre et en faire une qualité, alors ton couple change, alors la professionnelle que tu es, donc c'est une vie qui change concrètement. Et dans un deuxième temps, eh bien, à quoi elle sert cette vie ? Moi, j'ai résumé mon parcours, mais qui est quotidien. Je me pose ces questions quotidiennement. Qui suis-je ? Comment m'aimer ? Et à quoi je sers ?
Ben oui, les grandes questions existentielles que malheureusement, nous ne nous posons pas assez souvent. On est hésitant là aussi. On est handicapé de ce côté-là. Parce qu'on ne veut pas voir, peut-être.
Moi, je me suis fait des antisèches.
Mais c'est ça, oui.
Parce que je crois que le seul problème, on est à deux doigts de l'amour avec notre ange. Mais on n'y pense pas. Et c'est le soir, on se dit, zut, je l'ai oublié. Alors je me suis fait des pompes, des antisèches, des pense-bêtes sur la main. Pour dire merci, j'écrivais en gros d'un côté, de l'autre, sur mon frigo, partout. Alors ça me permettait d'avoir des arrêts pour questionner. Mais qui suis-je là maintenant ? Je suis en train de courir dans tous les sens. Pourquoi ? Alors la réponse, est-ce que je peux l'aimer celle-là ? Et maintenant, qu'est-ce que je vais en faire ?
Vous nous avez décrit un rituel, là. Vous écrivez sur votre main, sur le frigo. Y a-t-il d'autres pratiques que vous faites, par exemple le soir, avant de vous coucher ? Est-ce que vous essayez de revisiter votre journée ? Est-ce que vous essayez un petit peu pour être meilleur, pour essayer aussi de rendre votre vie beaucoup plus positive ?
Oui, j'ai parmi tous les rendez-vous de ma journée, deux rendez-vous, ceux-là, c'est les premiers que j'ai installés dans ma vie, c'est le matin. L'ange de Lily, dans les dialogues avec l'ange, lui dit « Mais souris-moi le matin quand tu te réveilles. » Alors, j'ai un petit rituel du matin qui est de lui parler, de lui demander comment il va, de lui dire comment moi je suis. C'est un bonjour aux deux parties de moi-même, ma partie humaine et ma partie divine, quoi. Et puis je change. Tous les rituels qui sont trop répétitifs, on s'en lasse parce qu'il faut innover selon comment on est. Et en ce moment, j'adore, dans ce moment entre la fin de la nuit, là, juste tous les rêves qu'on rate, là, on sent bien qu'on a rêvé là. Et puis le moment où on se réveille et qu'on est encore propre, quoi. Je lui demande, mais. Est-ce que tu as quelque chose à me dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui ? Et il y a toujours cette première inspiration qui vient. Voilà. Et puis le soir, allez, je relis ma journée avec lui. Il y a la lecture que j'en fais et puis, allez, lui, il me la fait voir autrement.
Moi, j'ai envie de vous dire, je retraduire cela, c'est faire confiance aussi à l'inattendu. Pas vouloir en permanence se focaliser sur un certain nombre d'actes. Mais il faut que je fasse ça, ça.
Oui.
Se laisser aller.
Je crois que... Moi, j'étais une femme pleine d'obligations, pleine de sérieux, de « il faut ». Et si je regarde ma pratique quotidienne et ce qui s'est transformé dans ma vie, c'est que je suis passée de... Ça serait bien que tu fasses ça, Patricia, aujourd'hui. Et j'avais toute ma liste. Ah, mais qu'est-ce qui te ferait du bien à toi aujourd'hui ? Et il y a toujours deux temps dans ce questionnement. Il y a qu'est-ce qui ferait du bien à ma petite personne, à la petite Patricia ? Boire un petit café, mais tous ces moments de pause qu'on ne s'accorde pas, toutes ces petites choses. Et dans un deuxième temps, quand on s'est accordé ce dont on avait besoin à notre petite personne, eh bien c'est l'ange qui prend le relais et qui dit ce qui ferait du bien à notre grande personne. Et là, c'est une autre paire de manches.
Il y a deux mots que je retiendrai à la fin de votre phrase là, c'est grandir et contribuer.
C'est joli dit comme ça.
Oui, c'est-à-dire grandir en disant créer, relever des défis et contribuer, c'est l'homme tâche.
Oui.
C'est simplement qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre, aux autres, à l'humanité, de quoi je suis capable.
Oui. Moi j'aime bien me dire, quand j'ai un problème dans la journée, donc qui va me faire grandir, j'aime bien les raccourcis. Et je me demande toujours, alors, dans cette situation, comment réveiller l'amour en moi ? Et finalement, j'ai inventé plein de manières. Allez, à la fois dans ce que mon époux lui-même a créé, de ce que Gita a créé, allez, comment réveiller l'amour ? Et après, comment aider les autres à le réveiller en eux ? Grandir soi-même et contribuer au grandissement des autres.
C'est vrai que vous parliez de votre époux, Il y avait un livre qui m'avait... Dans un livre sur la crise, déjà, il y a quelques années, il disait ceci, c'était finalement aller vers l'autre, non pas les poings fermés, mais les mains ouvertes.
Ah, c'est le résumé de toute vie intérieure qui se respecte, de toute vie spirituelle, de tout cheminement. C'est passer du poing fermé qui va frapper, mais d'abord soi-même, dans tous nos jugements, quoi. On est sans arrêt en train de se maltraiter, tu aurais dû. Et puis finalement, ce point, il se tourne vers les autres, parce qu'il faut qu'on trouve un responsable à notre souffrance. Alors, passer du point fermé qui va frapper soi-même et les autres, en main ouverte, qui va caresser soi-même d'abord, et les autres. Et moi, je termine en disant... Oui, mais cette main, elle n'arrête pas de se refermer en poing. Mais comment je peux la garder un petit peu plus ouverte? Et je dis souvent, mais pour qu'elle reste ouverte, il faut qu'on la donne à quelqu'un qui la prenne. Alors elle reste ouverte parce qu'on va aider quelqu'un. À lui-même, ouvrir ses mains.
Et vous me donnez, là, vous te tendez une perche, c'est la deuxième phrase, c'était celle de Teilhard de Chardin qui disait « se centrer sur soi ». Pour se décentrer sur l'autre et se surcentrer sur un plus grand que soi.
Oh là là!
C'était.
Là. C'est l'estocade finale.
C'est là, voilà. On y est.
Oui, on a résumé le parcours d'une vie humaine.
Voilà. Merci beaucoup, Patricia Monteau. Je rappelle le titre de votre livre, Une mise en pratique des dialogues avec l'ange. C'est paru aux éditions d'Hervy. Et amis auditrices et amis auditeurs, si vous le souhaitez, tapez Sommet de la conscience 2021. Il y a une conférence de Patricia Monteau qui n'est pas mal non plus. Merci beaucoup, Patricia.
On dit aux gens ce qu'on a dans le cœur, dans le ventre. Beaucoup ne sont pas prêts à entendre, veulent que je les laisse entrer. Ça ne sert à rien d'avoir peur et je vois que tu trembles. Tout n'est pas acquis dans la vie, faut savoir se recentrer. L'erreur humaine. Chacun vit son rythme, récolte sa. One day, nos chemins se croisent et se bousculent. Everyone to go tonight. Choses qui démangent, les tabous puis les mœurs, des questions, rumeurs, est-ce que la moindre des choses dans ce monde est vertu, passe avant respect, qui se passe après l'incestu, je balance, j'étonne, je répare, je tâtonne des fois dans le noir, je ne fais plus semblant, j'ai les pieds sur terre, quitte à viser loin, juste de mon flair. Et le même, chacun vit son rythme, récolte et sème. One day, nos chemins se croisent et se bousculent.
Aborder le sujet de Gita, votre rencontre avec Gita, cette fameuse porte qui s'est ouverte d'un coup à vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté par la suite?
Je crois qu'on rencontre toujours les êtres qui nous accompagnent parce qu'ils contiennent ce qui nous manque. Et dans notre subconscient, on est attiré par le fait qu'ils ont réussi à dépasser les problèmes que nous avons encore, quoi. Et les trois endroits où j'ai rencontré Gita, ça a été d'abord le fait que moi, j'avais toujours le sentiment de passer à côté de ma vie. Quand je me couchais le soir, j'avais une immense frustration de dire « mais j'ai rien dégusté, j'ai rien vécu ». Et que le choc avec Gita, c'est qu'elle vivait. Chacun de ses instants, elle les vivait. Alors, elle m'a appris à écouter cette petite voix intérieure, notre ange, qui sait ce qu'est notre vraie vie. Et nous faire le pont entre la fausse vie que nous avons, où on se débat avec nos misères, nos difficultés, et puis la vraie vie de royauté qu'on contient en nous, quoi. Et donc, la deuxième chose, c'était quand elle est venue habiter chez nous, Gita, j'ai eu un choc de voir qu'elle était imparfaite. Je m'étais imaginé qu'au bout de... Elle avait 80 ans. Au bout de toute cette expérience des dialogues, j'avais le sentiment que c'était quelqu'un, voilà, de réalisé dans une perfection. Et nous n'avons cessé de croiser ces imperfections. Et au début, je me disais, mais ça sert à quoi de faire tout ça si c'est pour terminer pareil qu'on a commencé? Mais en fin de compte, on était toutes les deux imparfaites. Mais elle le vivait bien. Elle éclatait de rire chaque fois qu'elle faisait une bêtise. Et moi, j'en faisais des mélodrames et je ratais finalement toutes mes journées uniquement par le regard que je posais sur moi, quoi. Alors, c'est comment bien vivre là maintenant? C'est la question qui me sauve la vie aujourd'hui. Et puis, le fait qu'elle était un être de remerciement. Je crois qu'on reconnaît les grands êtres au fait qu'ils passent leur journée dans un remerciement incessant parce qu'ils sont devant les cadeaux que la vie leur offre, le scénario de la vie organisé autour d'eux pour qu'ils grandissent. Et elle voyait tout comme des déclarations d'amour de sa moitié de lumière, quoi.
Et elle les remerciait.
Et elle remerciait, et tout à coup, tu es à côté, tu vis à côté d'elle, et tu te dis, mais moi, je prends tout ça comme si c'était normal. D'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir les choses toutes simples, d'avoir un bon lit. Alors, comme tu ne te rends pas compte que c'est un cadeau, et que tu le vis comme si c'était normal, tu ne le vis jamais, tu ne le dégustes pas. C'est comme si ça n'existait pas. Et elle faisait exister toutes les activités ordinaires de manière royale, parce qu'elle les remerciait. Elle le sentait comme un cadeau de la vie. Alors, si on est capable, et c'est ça que j'ai appris auprès d'elle, de remercier, donc de voir partout où tu es aimé par la vie, tous les cadeaux que tu reçois, alors la vie peut t'offrir le cadeau supplémentaire. Sinon, tu es dans ta chambre avec plein de... C'est Noël, tu as plein de cadeaux, parce que c'est enveloppé en papier kraft, t'as pas bien ouvert. Et comment voulez-vous que la vie nous en offre un suivant si ceux qu'elle nous a déjà donnés, on les a pas, on s'en est pas servi, quoi.
Et ni remercier déjà.
Voilà.
Parce que remercier un cadeau de la vie, c'est l'accepter tel qu'il est, avec la couleur qu'il a, l'enveloppe qu'il a.
Oui.
Et tout ça. Et du coup, pour pouvoir recevoir un autre, j'entends bien ce que vous dites, c'est d'abord ça, l'acceptation.
D'abord remercier ceux qu'on a, les avoir vus, quoi.
Voilà.
Alors après, c'est ça qui, ce que nous a apporté Gita, c'est le fait de la conviction que nous avions une tâche sur cette terre, quoi. Nous qui nous pensions, voilà, tu réussis un peu ta vie, c'est déjà pas mal. Ah non, on a aidé les autres à réussir la leur de vie. Moi, j'aime cette définition, c'est vivre. C'est aider les autres à vivre. Alors là, on a tout dit.
Oui, aider les autres à vivre pour mieux vivre soi-même.
C'est un plus à notre vie. D'accord. Que d'avoir un peu accompli la nôtre, d'être plein, et d'avoir réussi dans la cage dans laquelle on était à se forger une clé pour en sortir, et puis ceux qui sont dans une cage comparable à la nôtre, de pouvoir leur...
Donner la clé.
Leur donner la clé pour qu'eux aussi s'envolent. Et c'est sûr que là où nous avons nous-mêmes traversé, nous avons la capacité d'aider ceux qui ont les mêmes problèmes que nous.
Donc si je devais résumer un petit peu la rencontre et ce que ça vous a apporté, elle vous a donné une clé pour sortir de la cage.
Voilà.